Ben, l'accueil est généralement souvent le même, c'est-à-dire qu'on est très surpris de me voir à ce poste-là. On me dit « Ah bon, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu de femme chef opératrice du son. » Et je sens qu'il faut quand même que je prouve que je sais faire. Je sens quand même un petit a priori souvent. Mais une fois que les gens se sont rendus compte que je savais travailler, j'ai aucun problème. Au contraire, je trouve que les gens sont très bienveillants. Je trouve que les gens... Non, pas du tout de problème avec le fait que je sois une chef, avec l'autorité.
Genre la meuf.
Mais c'est quoi son genre?
Genre, c'est un métier de femme.
C'est pas trop son genre.
Non, mais fais pas genre.
Fais pas genre.
Machiniste est-il un métier d'homme ou de femme? Photographe, ingénieur du son, script ou danseur? Ces métiers nous questionnent sur la mixité dans les métiers du spectacle et de l'audiovisuel. À travers 20 portraits, Fais pas genre donne la parole à ces femmes et à ces hommes qui sont en minorité de genre dans leur métier. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je suis avec Delphine Malocena, ingénieure du son depuis une dizaine d'années. Avec seulement 9% de femmes qui travaillent dans le son, Delphine est l'une des rares femmes à travailler dans ce secteur. Alors, bonjour Delphine.
Bonjour Déborah.
9%, ce chiffre est très faible. C'est même l'un des domaines les plus sous-représentés en femmes dans le spectacle vivant et l'audiovisuel. Qu'est-ce que cela t'évoque ?
Ben, je trouve que c'est un métier vraiment passionnant et je trouve ça vraiment dommage que si peu de femmes aient la chance, disons, de pouvoir s'épanouir dans ce métier. Moi, c'est pas quelque chose que j'avais prévu. Je me suis laissée porter par mes études et par mes passions et je me suis retrouvée chef opératrice du son dans le cinéma. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu m'épanouir et être acceptée dans ce milieu très masculin.
Alors, comment tu vis, toi, cette absence de mixité ?
Personnellement, je le vis d'une manière... disons que je m'y suis habituée parce que j'ai croisé très peu de femmes chefs opératrices du son. Je crois même que j'en ai croisé aucune, en fait. Pourtant, j'ai fait beaucoup de... J'ai été sur beaucoup de plateaux. Avant, j'étais assistante. Et j'ai croisé très, très... J'en connais une, en fait, qui s'appelle Brigitte Taillandier, qui est chef opératrice du son, notamment pour les films de Audiard. Elle a un excellent parcours, extrêmement talentueuse. Elle a eu un César l'an passé pour le meilleur son. Mais à part elle, j'en connais... Peut-être que ça me reviendra, mais j'en connais pas, je crois. Je connais beaucoup plus d'assistantes, par contre. Il y en a de plus en plus, des femmes perchwoman ou assistantes son. Donc ça, c'est très bien. Mais de là à passer le palier pour devenir ingénieur du son, c'est autre chose. Et on est peu nombreuses.
Quel est l'accueil que tu as pu avoir dans ce milieu très masculin ?
Ben, l'accueil est généralement souvent le même. C'est-à-dire qu'on est très surpris de me voir à ce poste-là. On me dit « Ah bon, mais c'est incroyable, j'ai jamais vu de femme chef opératrice du son. » Et je sens qu'il faut quand même que je prouve que je sais faire. Je sens qu'il faut que je sois bonne, en fait. Et efficace et que il faut me montrer que je connais la technique. Je sens quand même un petit a priori souvent. Mais une fois que les gens se sont rendus compte que je savais travailler, j'ai aucun problème. Au contraire, je trouve que les gens sont très bienveillants. Je trouve que les gens n'ont pas du tout de problème avec le fait que je sois une chef, avec l'autorité. Tout se passe très bien.
Et c'est quoi ces signes qui te font penser qu'il va falloir que tu fasses tes preuves ?
Alors, je ne sais pas si c'est des signes vraiment objectifs ou c'est des choses que je ressens personnellement, mais je sens dans le regard des gens que c'est étonnant. Ou par exemple, il m'est arrivé souvent, donc je ne vais donner évidemment aucun nom, mais par exemple, moi, j'ai beaucoup travaillé avec un assistant et pour les questions techniques, on allait lui poser à lui. Les questions. Et ça, je trouvais ça m'était hors de moi parce que franchement, c'est quand même assez scandaleux. Et donc, on avait un code avec mon assistant, c'est que dès qu'on venait lui poser une question technique, il renvoyait la balle en disant qu'il fallait s'adresser à moi. Donc ça, moi, ça m'a vraiment... quand je m'en suis rendu compte, en fait, ça m'a vraiment touchée, quoi, parce que c'est quand même moi la chef de l'équipe, donc voilà, il n'y a pas de raison.
Est-ce que tu dirais que du coup, c'est plus difficile pour une femme de faire sa place dans ce milieu ?
Alors, je sais pas si c'est plus difficile pour une femme, parce que moi, ça a été très très vite et j'ai fait ma place très rapidement. Donc, j'ai fait l'école aux Lumières et 2 ans après ma sortie de l'école, j'ai été chef opératrice sur un long métrage, ce qui est quand même très rapide dans ce milieu-là. Alors, ça m'a posé aucun problème. Au contraire, j'ai eu l'impression qu'on m'appelait parfois parce que ça faisait une certaine différence et peut-être une autre sensibilité. Et encore, c'est à voir, parce que je sais pas si les sensibilités sont forcément différentes ou si c'est juste des questions de caractère, je sais pas. Mais j'ai pas eu l'impression que ça a été plus dur pour moi. Mais si je vois dans la globalité des choses, force est de constater que c'est quand même plus dur pour les femmes. Donc moi, je pense que j'ai toujours évolué dans un milieu d'hommes, c'est-à-dire que j'étais étudiante en physique. Il y avait quasiment que des hommes. J'ai fait la direction d'orchestre, on était deux étudiantes. J'ai fait beaucoup une prépa scientifique, maths sup, maths spé. J'étais encore une des seules. Enfin, il y avait peu de femmes. Et je sais pas, c'est quelque chose que j'ai intégré. C'était même pas très conscient. Et aussi, mes parents ont joué un rôle là-dedans, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas du tout élevée dans une espèce de stéréotype. Ils m'ont tout de suite dit que je pouvais faire des maths, que je pouvais faire du foot, enfin vraiment depuis mon plus jeune âge. Donc je pense que ça m'a... Du coup, je me suis pas mis de barrière. Voilà, donc je pense que c'est... Donc, pour moi, ça n'a pas posé de problème. Mais quand je vois mes amis d'école, par exemple à Louis Lumière, on était 4 filles à être acceptées sur 16. Et pourtant, c'était une promo, il y avait beaucoup de femmes par rapport à d'habitude. Donc c'est quand même... C'est peu.
Alors, tu parles d'éducation, tu parles de barrières. Selon toi, qu'est-ce qui explique alors justement la faible présence des femmes dans ce milieu ?
Alors, déjà, c'est un... Le son, il y a un aspect très artistique, évidemment, mais il y a un aspect technique. Et je pense que ça peut faire peur aux femmes, ou c'est peut-être pas quelque chose qui les attire, mais c'est peut-être culturel ou sociétal. Moi, ça m'attire dans le sens où c'est scientifique. Après, tout ce qui est technique pure, ça m'intéresse pas spécialement, mais tout le côté science qu'il y a derrière, j'adore. Et je pense que peut-être les femmes sont moins intéressées par la technique. Mais je pense que c'est sûrement aussi quelque chose d'éducatif, parce que il n'y a pas de raison, en fait, c'est passionnant. Donc, et aussi, bah, y a tout l'aspect artistique. Alors là, pour le coup, je ne vois pas pourquoi les femmes ne seraient pas intéressées, parce que on est au cœur de la production d'une œuvre cinématographique, on est le premier référent... de tout ce qui concerne le jeu, l'audition, la sensibilité, c'est un contact avec les comédiens, c'est fantastique. Donc je sais pas, je pense que le frein, ça doit être l'aspect technique.
Tu es toi-même engagée justement dans la question de la place des femmes dans le cinéma. Pourquoi c'est important pour toi de cet engagement ?
Cet engagement est important pour moi, du moins l'est devenu, parce que en évoluant dans ce milieu, je me suis quand même rendu compte que il y avait certaines injustices, que les femmes avaient vraiment moins accès à la posture de chef sur un plateau. Les femmes sont souvent assistantes, il y a beaucoup moins de réalisatrices femmes. Là, j'étais chef opératrice du son sur un documentaire de Patrick Fabre sur la place des femmes au cinéma. Donc, on a vraiment interviewé beaucoup de femmes. Et là, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable à quel point il faut se battre pour y arriver dans ce milieu. Et je sais pas, je me suis dit, il faut que... Faut moi aussi que j'amène ma pierre à l'édifice, c'est-à-dire que maintenant, je prends tout le temps des femmes dans mes équipes. Là, je viens de terminer le tournage d'une série Netflix qui s'appelle La Révolution, et j'ai pris une perche woman. Donc, on était 2 femmes. En tout, on était 4 au son, mais du coup, moi, la chef et ma première assistante, on était 2 femmes, et c'était génial. C'était vraiment fantastique, et ça marchait super bien. Mais du coup, les gens étaient quand même assez étonnés. Et sinon, je vais mettre un point d'honneur à prendre des stagiaires conventionnées femmes. Enfin, vraiment, c'est un truc... que je vais appliquer.
J'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours. Comment est née cette envie de devenir ingénieur du son ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours ?
Alors, mon parcours, il est assez singulier. Parce que je considère que ça fait partie de mon parcours, j'ai fait le conservatoire de musique classique en faisant du violon, de l'orchestre, de la musique de chambre pendant une 20aine d'années. Et après, jusqu'à la fin du lycée. Et après le lycée, je suis partie faire des sciences. Donc, j'ai fait une classe prépa, puis je suis partie à la fac en physique jusqu'en master de mécanique quantique. Et là, j'ai eu très envie de faire un métier plus artistique. Donc, j'ai tenté l'école Louis Lumière un petit peu par hasard, parce que je ne connaissais pas du tout les métiers qui en découlaient, mais c'était plus par intuition. Donc, j'ai eu le concours Et là, j'ai découvert qu'il y avait des métiers vraiment dans le son exceptionnels. Enfin, on pouvait être ingénieur du son tant dans à la radio qu'au cinéma, qu'en musique. Et durant ma formation, j'ai eu la chance de rencontrer Pierre Gamet, qui était un chef opérateur du son français exceptionnel. Il a eu, bon, déjà humainement, c'était vraiment quelqu'un d'extraordinaire. Et puis, professionnellement, il a eu plusieurs Césars, plein de récompenses. Il a fait une centaine de longs métrages français, les plus connus. Et il m'a pris sous son aile et ça m'a vraiment donné envie de le suivre et de continuer dans cette voie. Et donc, après l'école, j'ai une particularité aussi, c'est que j'ai pas voulu être assistante. Donc, j'ai été assistante, disons, pendant un an et demi. Et puis après, j'ai commencé à vraiment, vraiment vouloir être chef moi-même.
Pourquoi tu voulais pas être assistante?
J'avais pas envie d'être assistante parce que, en fait, j'avais pas envie de dépendre d'un chef opérateur, mais j'avais envie de dépendre d'un metteur en scène. J'avais envie de pouvoir parler de la mise en scène, du côté artistique. Donc j'ai eu envie très vite de monter les échelons pour que mon interlocuteur soit vraiment le réalisateur, le producteur, etc. Donc c'était un petit peu ambitieux à la base, mais finalement, assez vite, ça a marché. Au bout de 2 ans, j'ai fait mon premier long métrage en tant que chef opératrice et du coup, j'ai plus jamais été assistante.
Alors, pour ceux qui ne savent pas très bien à quoi ça ressemble la vie d'un ingénieur du son, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier ?
Donc moi, je suis ingénieur du son tournage, donc c'est-à-dire que on travaille sur le plateau de tournage et notre mission est d'enregistrer tous les dialogues, tous les sons nécessaires à la post-production du film. Donc on est au cœur de la création du film, donc on est en contact vraiment très intime avec les comédiens. C'est souvent, ils viennent souvent nous parler à la fin des prises pour savoir s'ils ont été justes, parce qu'au son, c'est vraiment là où on se rend compte si la personne a été dedans, s'il y a eu de l'émotion. Moi, en plus, je ressens vraiment cette émotion. Je suis assez sensible, donc quand il y a une prise qui est juste, c'est quelque chose que je ressens de manière assez claire. Donc il y a tout cet aspect artistique. Après, il y a aussi l'aspect relationnel sur un plateau, c'est-à-dire qu'au son, il faut réussir à travailler avec l'équipe, évidemment, lumière, caméra, la mise en scène, les accessoires, les costumes, parce qu'on cache nos micros aussi dans les costumes, parfois même dans les cheveux, donc avec tous les coiffeurs. Enfin, disons, mais bon, le cinéma, c'est ça, de toute manière. Il faut vraiment travailler avec tous les corps de métier pour réussir à travailler le mieux possible. Et moi, j'ai assez vite compris que c'était vraiment une affaire diplomatique aussi. C'est pas juste, je veux faire le meilleur son, donc j'embête tout le monde. Non, pas du tout. Il faut vraiment aussi avoir des concessions. Parfois, faire un son moins bon sur une scène qui sera peut-être moins importante pour pouvoir demander, lors d'une autre scène, vraiment plus importante, demander beaucoup de choses pour nous. Il y a une partie importante du métier qui est vraiment que, ben là, je viens de terminer un tournage et on a passé 4 mois à travailler quasiment tous les jours pendant 12 heures, loin de Paris, donc dans des châteaux alentours, être constamment ensemble. Et c'est vraiment très fort. Enfin, je pense qu'il faut avoir aimé être avec des gens en permanence, un petit peu comme une colo quand on était enfant. C'est très, très fort.
Donc, on a écouté en début de ce podcast un extrait d'une de tes compositions musicales. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi ce morceau ?
Alors, j'ai choisi ce morceau car je trouve qu'il correspond, il est assez représentatif de mon univers musical. C'est-à-dire qu'il mélange des sonorités classiques avec des cordes, des sonorités orchestrales et harmoniques plutôt classiques, avec des sons beaucoup plus modernes, des sons électro. Moi, j'aime vraiment ce mélange qui correspond d'ailleurs à mon évolution dans ma vie, parce que j'ai commencé par une formation classique de violon. Et après, grâce à ma casquette d'ingénieur du son, j'ai vraiment travaillé les sons, le côté électroacoustique. Là, en ce moment, je me forme au synthétiseur modulaire. Et du coup, dans ma pratique de composition, j'aime beaucoup mélanger ces deux aspects. Donc voilà, ce morceau est représentatif de mon univers.
Tu as toujours fait de la composition ?
J'ai fait de la composition. En fait, quand je suis tombée enceinte, je ne pouvais plus travailler sur les tournages parce que c'est quand même très physique. Et du coup, je me suis, disons, autorisée à composer parce que c'est quelque chose que j'ai en moi depuis tout le temps, mais de s'autoriser à le faire, c'est autre chose. J'ai commencé à composer pour des courts-métrages et là, j'ai pris le virus et depuis, je continue. J'ai vraiment envie d'avancer dans cette voie. Donc, je compose pour des films. Donc, pour l'instant, c'est pour des courts-métrages. Donc, c'est vraiment... là, c'est les courts-métrages qu'on peut voir en festival, etc. Et là, j'ai deux premiers longs-métrages qui sont en train d'arriver. Donc là, ça sera pour des longs-métrages qui vont sortir en salle. Enfin, j'espère. On va croiser les doigts. Donc, ça, c'est vraiment de la musique à l'image. C'est pas de la musique seule. Donc, c'est par exemple la musique d'un générique ou la musique d'une séquence, d'un film.
Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier ?
Ce qui me plaît dans mon métier, c'est cette alliance de technique, d'artistique et d'humain. Je crois que c'est vraiment quelque chose... moi, j'ai trouvé un équilibre parfait. Ce que j'aime aussi, c'est le fait de travailler très intensément pendant quelques mois et après d'avoir du temps de libre aussi, qui me permet aussi justement de composer, d'être chez moi et de faire mûrir d'autres projets. Moi, ça me convient très bien, ce rythme pas régulier. Ça me plaît beaucoup, en fait.
Est-ce qu'il y a un projet dont tu es particulièrement fière et dont tu pourrais nous parler ?
Bah là, ça montre à quel point je suis encore dedans, mais on a terminé le tournage d'une série qui s'appelle La Révolution pour Netflix. Et c'était vraiment fantastique en termes techniques, en termes d'expérience humaine. Il y avait beaucoup de cascades avec des chevaux, les costumes étaient magnifiques. On a eu vraiment le sentiment de faire quelque chose de bien. Et c'était... j'ai vraiment les yeux qui pétillent quand j'en parle.
C'est quoi les qualités indispensables pour être un bon ingénieur du son ?
Alors, pour être un bon ingénieur du son, il faut évidemment avoir une bonne oreille et une oreille éduquée parce qu'on apprend à reconnaître des fréquences, on apprend à reconnaître des sons indésirables, on apprend à discerner tous les sons qui sont autour de nous, ce qui n'est pas facile au début. Hein. Quand j'ai commencé, j'étais violoniste, mon oreille était très fine, mais bon, non, j'ai dû encore beaucoup apprendre. Bon, il y a cet aspect-là indéniable. Je pense qu'il faut disons, comprendre scientifiquement ce qui se passe pour pouvoir manier un petit peu les outils, avoir un certain goût pour certains sons. Et après, c'est tout l'aspect humain. Je pense qu'il faut vraiment être diplomate, aimer s'entourer de gens. Je pense, mais ça, c'est très personnel, mais je pense qu'il faut... Si on a envie de perfection, je pense que c'est un métier compliqué parce que sur un plateau de cinéma, on n'aura jamais un son parfait. Donc, je pense que si on est frustré dès que une prise n'est pas parfaite, je pense qu'on peut devenir très malheureux. Donc, je pense qu'il faut avoir une certaine souplesse.
Alors, malgré cette absence de mixité, quel conseil tu donnerais à une femme qui aimerait se lancer dans ce métier ?
Alors, je donnerais comme conseil de suivre ses envies et surtout de ne pas s'arrêter au regard des gens. C'est très important d'aller là où on sent qu'on va s'épanouir. D'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, à notre époque, on va laisser un peu la place aux femmes. J'ai l'impression que c'est le moment où on a un peu de chance d'être un peu porté par les gens. Donc, je pense que c'est le moment, en fait, si on veut se lancer.
Et comment tu vois la suite de ta carrière ?
Alors, la suite de ma carrière, j'aimerais continuer à faire des projets aussi intéressants que celui que je viens de faire, que ça soit en série, parce que je trouve que la série est en plein essor et c'est vraiment hyper intéressant. Et également en long métrage. Ça, c'est en ce qui concerne le côté ingénieur du son et j'aimerais vraiment développer la composition musicale dans les longs métrages et la série. Donc, ça, l'avenir nous le dira, parce que c'est aussi un domaine très très masculin. Il y a très très peu de femmes qui composent pour des longs métrages. Il n'y en a quasiment eu aucune les deux dernières années. Et donc, il y a un plafond de verre vraiment à casser.
Super. Merci beaucoup, Delphine.
Merci beaucoup.
C'est la fin de cet épisode. Pour retrouver l'intégralité des portraits en podcast, photo ou vidéo, rendez-vous sur notre site dédié.